L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de notre Seigneur. Et pourtant, quand nous considérons notre société actuelle, il y a quelque chose qui préoccupe le commun des mortels. Déjà, quand nous voyons, lorsqu'il s'agissait des élections, il y a eu un sujet qui était vraiment poignant et sur lequel on attendait les différents candidats. Vous vous souvenez? Il y a eu un sujet particulier qui préoccupait et qui préoccupe encore. Alors, un peu d'histoire, ça ne date pas quand même de... Il n'y a que quelques mois en arrière. Et on parle encore aujourd'hui. Ah, le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat. C'est le sujet sur lequel les politiques se tiraillent. Chacun essaye de trouver les moyens nécessaires pour venir en aide à la population. Le pouvoir d'achat, c'est quelque chose qui divise encore aujourd'hui. Ça divise aujourd'hui la population. J'ai essayé quand même de savoir ce qu'était le pouvoir d'achat. Vous savez, en économie, ça correspond à la quantité de biens et de services qu'un revenu permet d'acheter. Je ne suis pas économiste, mais c'est ce que les économistes disent. Et pour eux, le pouvoir d'achat dépend alors du niveau de revenu et du niveau des prix. Ah, les prix. Les prix. Vous avez fait les courses récemment, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous avez constaté depuis un certain temps? Est-ce que le niveau des revenus et le niveau des prix sont équivalents? Non. Les prix sont au-dessus des revenus. On essaye, ce qui fait que plusieurs ont du mal à subvenir à leurs besoins. On a du mal aujourd'hui. On a fait l'essence la dernière fois avec mon épouse et on se disait, avec notre voiture, 90 euros. Oh là là, que c'est dur, hein, de mettre 90 euros pour du gasoil. Et pourtant, si j'avais ces 90 euros, je vais à Leclerc, je peux me faire un peu de course, même si ce n'est pas beaucoup, mais quand même, c'est en train d'augmenter petit à petit. J'aimerais vous entraîner cet après-midi à vivre une histoire où, même si aujourd'hui, voilà, le pouvoir d'achat divise, c'est un sujet sur lequel, voilà, on n'est pas, on se disperse et on essaie de trouver des solutions. Vous savez, ça ne date pas aujourd'hui ces temps de difficultés auxquels nous faisons face. J'aimerais lire avec vous ce qui est écrit dans le livre de Ruth. Ruth chapitre 1er, nous pouvons lire ceci. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses deux fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Élimélec, celui de sa femme Naomi. Et ses deux fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Élimélec, mari de Naomi, mourut. Et elle resta avec ses deux fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Et ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kiljon moururent aussi, tous les deux. Et Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari. Puis elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses deux belles filles, et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit alors à ses deux belles filles, « Allez, retournez chacune à la maison de sa mère, que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. » Et elle les baisa. Elles élevèrent la voix et pleurèrent. Et elles lui dirent, « Non, nous irons avec toi vers ton peuple. » Naomi dit, « Retournez mes filles, pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez mes filles, allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance, quand cette nuit même je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils eussent grandi? Refusiez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. » Et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, « Voici, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. » Ruth répondit, « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur. Si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. » Naomi, la voyant décidée à aller avec elle, cessa ses instances. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elles. Et les femmes disaient, « Est-ce là Naomi ? » Amen. Quelle situation quand même douloureuse, attristante. Nous apprenons qu'à l'époque des juges, il y eut une famine dans le pays. Vous savez, avec cette histoire de pouvoir d'achat, de tout ce qui se passe, les experts sont même arrivés à dire qu'avec le blocus du blé, il va se produire un phénomène. Ils prédisent déjà une famine en Afrique. Ils prédisent, alors qu'il y en a déjà. La famine, c'est quelque chose de terrible. Quand l'homme n'arrive plus à manger à sa faim, quand l'homme n'arrive plus, c'est un crève-cœur de voir des hommes et des femmes mourir de faim, c'est terrible. À l'époque des juges, il nous dit qu'il y ait une famine. Un homme de Bethléem. Bethléem signifie maison de pain. C'est quand même paradoxal, la situation de cet homme. Il vit dans un temps de famine et il ne réalise pas là où il est, la grâce dans laquelle il est. Voyez-vous, bon nombre dans cette société ne réalise pas. On croit toujours que l'herbe est verte ailleurs. Et on essaye. S'il y a une difficulté là, oh vite, il faut aller chez le voisin. On trouve qu'il y a une difficulté chez le voisin et on va chez l'oncle qui est de l'autre côté. Et pourtant. Cet homme parti de Bethléem, de Juda, avec sa femme et ses deux filles, ses deux fils s'installaient dans le pays de Moab. Et nous apprenons dans la suite du récit que cet homme mourut, ainsi que ses fils, laissant trois veuves face à un choix déterminant. La vie est faite de choix. Que nous le voulions ou pas, nous avons des choix à faire. Il y a des choix avec des conséquences à court terme et il y a des choix avec des conséquences à long terme. Mais vous savez, quand on est devant un choix, on ne pense pas aux conséquences. On ne pense jamais aux conséquences. C'est la solution immédiate qu'on cherche. Cet homme laisse sa femme et ses veuves et, les deux belles filles face à un choix déterminant. Ruth, veuve, Moabite, choisit de retourner avec sa belle-mère. Orpa retourne dans ses terres vers ses dieux. Avec ce que nous vivons aujourd'hui, dans notre société, nous n'allons pas aller plus loin. Nous voyons ce qui se passe autour de nous. Devant cette difficulté de pouvoir d'achat où il y a ce blocus de blé, les prix flambent, vous partez avec même 100, 200 euros au magasin, vous ressortez avec quelques sacs, alors qu'auparavant, avec 200 euros, on retournait avec plein de sacs. Mais là, la situation a changé. Que faire? Quel choix faire? Bethléem qui signifie la maison du pain. Et nous voyons, quand nous lisons la suite des Écritures, Ruth, celle qui a choisi, au lieu de retourner vers ses terres, vers ses dieux, Ruth va s'attacher à Naomi et elle est devenue l'arrière-grand-mère du roi David, qui est incluse dans la généalogie du Messie. Est-ce un hasard que cette femme, qui devant un choix déterminant, devant la famine, elle aurait pu, comme l'autre dame, Orpa, se dire, je retourne vers mes terres, vers mes parents, vers ma famille. En plus, rien ne me lie encore à cette dame, Naomi, parce que j'ai perdu mon mari, alors je suis libre de faire ce que je veux. Et oui, puisque son mari étant mort, elle était libre de faire ce qu'elle voulait. Vous savez, aujourd'hui, bien des gens, bien des peuples, bien des hommes subissent les conséquences de la guerre. Les conséquences de la guerre qui frappe l'Europe depuis quelque temps. Et les conséquences de cette guerre sont ce que nous voyons, l'inflation, même si nous savons que l'inflation était déjà là depuis un moment. La guerre est venue accentuer ce phénomène-là. Il y a quoi? Il y a ce qu'on appelle la décroissance et même, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, la flambée des prix, notamment le blé. Tout a augmenté. Que faire? Comment pouvoir se nourrir? Il nous est dit ici, Ruth va s'attacher à Naomi pour retourner où? Non pas à Moab, mais à Bethléem, qui signifie maison du pain. Maison du pain. Si aujourd'hui, on peut se dire que la nourriture manque, si aujourd'hui on peut se dire que du pain pourra manquer pour tous, permettez-moi de vous dire qu'il y a du pain pour tous. Il y a du pain pour tous avec le seul pain qui fait vivre. Dans Jean au chapitre 6, nous lisons ceci. Jean chapitre 6. Et ce pain ne dépend pas de l'inflation. Ce pain ne dépend pas de la flambée du prix du blé. Jésus leur dit ceci, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Je suis le pain de vie. Et il y a là cette parole qu'il va adresser, celui qui croit en moi, montrant par là que tout ce pain, il est ouvert à tous. Tous peuvent avoir accès à ce pain-là. Si aujourd'hui, avec la flambée des prix, si aujourd'hui, avec l'inflation, si aujourd'hui, avec le blocus du blé, on prétend qu'il va y avoir une famine. Déjà, il y a la famine. Les hommes n'arrivent plus à vivre décemment. On a du mal à s'en sortir. Permettez-moi de vous dire, il y a une solution. On essaye, humainement parlant, de trouver la solution. On court vers les hommes pour trouver une réponse. Beaucoup, voilà, essaye de trouver une solution humaine. Mais Jésus nous donne la solution venant de Dieu. Il dira, je suis le pain de vie. Je suis le pain de vie. Voilà quand même du pain pour faire vivre. Le pain de vie. Voilà ce qui pourra alléger notre vision de ce monde. Vous savez, Jésus incarne ce programme aujourd'hui précisément, invariablement. Plus loin au chapitre, dans ce même chapitre, au verset 51, Jésus dira ceci, « Moi, je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain-là, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai pour que le monde vive, c'est mon propre corps. » Je suis le pain descendu du ciel. Il est le pain venu de Dieu, le pain qui est accessible à tous les hommes. Le pain venu de Dieu, il dira, celui qui croit en moi, et celui qui vient en moi n'aura jamais faim. Celui qui vient en moi. On n'a pas besoin d'avoir de l'argent ou ne pas avoir de l'argent. Ce pain ne dépend pas de l'inflation. Peu importe ce qui se passe autour de nous, peu importe tes revenus. Rappelez-vous ce que les économistes disaient. Ils ont dit que voilà, le pouvoir d'achat dépend du prix. Mais là, il n'est pas question de prix. Jésus ne parle pas de quelque chose en monnaie. Il parle de la foi. Celui qui vient à moi. La parole de Dieu nous le dit dans l'épître de Paul aux Romains, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est en lisant la parole de Dieu que va naître cette confiance, parce qu'en lisant la parole, nous voyons là un Dieu plein d'amour, un Dieu plein de compassion, un Dieu qui voit la misère des hommes et qui est descendu, un Dieu qui ne se plaît pas dans la souffrance des hommes, mais il a livré le seul qui soit capable de répondre aux besoins, à savoir Jésus. Jésus dira, je suis le pain descendu du ciel. Il faut savoir que quand Jésus parle de cela, un peu plus haut, il discutait avec certaines personnes. Et voici ce qu'ils vont dire. Quel miracle fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi? Beaucoup veulent voir avant de croire. Et ces personnes voulaient voir quelque chose, voulaient voir Jésus faire un miracle avant de croire. Et Jésus va leur dire ceci. Ils diront, que fais-tu? Nos pères ont mangé de la manne dans le désert, selon ce qui est écrit, il leur donna le pain du ciel à manger. Ils ont vu la main de Dieu. Lorsque dans leur errance, dans leur désespoir, dans leur désillusion, alors qu'ils n'avaient pas mangé, Dieu a fait ce miracle, par l'intermédiaire de son serviteur. Mais eux, ils croyaient que c'était le serviteur là, Moïse qui avait fait descendre l'amande. Mais c'est par là que Jésus va leur dire ceci. Verset 32, « en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel. » Non, ce n'est pas Moïse. Moïse n'était qu'un instrument. Mais il dira à Jésus, « Mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. » Le vrai pain du ciel. Aujourd'hui, si les hommes souffrent de l'inflation, de la manière dont ils vont manger, on se soucie du lendemain, on se demande comment vivrons-nous demain, comment ferons-nous demain, comment allons-nous pouvoir pourvoir à notre besoin. Jésus répond en disant, mon Père vous donne le vrai pain qui vient du ciel. Le vrai pain, c'est Jésus, celui qui a livré sa vie. Regardez ce qu'il va dire. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. N'est-il pas dit dans Jean 3, 7, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il est le vrai pain descendu du ciel dont tous les hommes ont besoin. J'en ai besoin toujours de ce pain. Vous avez besoin de ce pain. Ne vous souciez pas de ce que, humainement, on se soucie de ce qu'on va manger. Mais Jésus dira le vrai pain du ciel. Montrant par là que même si votre compte en banque est garni, même si vous avez des dollars comme vous pouvez l'avoir, des euros comme vous pouvez les avoir, même si vous avez tout cela, moi je ne vais pas vous envier parce que j'ai le vrai pain de vie. Il est venu un jour me nourrir alors que j'étais dans le désespoir, dans la désillusion, alors que je tâtonnais cherchant comment vivre. Il m'a éclairé, il m'a montré que si je goûtais à lui, je vivrais éternellement. Et c'est ce que j'ai fait. Et la plupart d'entre nous ont goûté à ce pain-là et aujourd'hui, ils se réjouissent. Et toi, que vas-tu faire? Tu te soucies. Tu te soucies, tu t'inquiètes et tu t'agites. Et c'est ce que fait notre monde, notre société. Les hommes s'agitent. Posez la question à quelqu'un quand vous sortez tout à l'heure. Posez la question. Qu'en penses-tu du pouvoir d'achat? Qu'en penses-tu de l'inflation? Il y a une crainte, il y a une peur, parce que les gens n'ont pas de sécurité. Les gens n'ont pas d'assurance, mais les propos de Jésus nous amènent à réaliser que la foi que nous allons placer nous permet d'avoir une assurance, nous permet d'être en sécurité. Je suis le vrai pain descendu du ciel. Peut-être quelqu'un dira, pasteur, mon frigo est plein, j'ai fait le plein. J'ai fait le plein. Rien que hier, je suis allé faire les courses, j'ai fait le plein. Mais ce plein va-t-il rester définitivement? Il va s'épuiser. Et tu seras obligé encore d'aller avec ton caddie. Tu vas aller voir dans les rayons, choisir. Tu vas pousser ce caddie-là. Tu vas aller à la caisse faire la queue, attendre combien je ne sais pas. Tu vas sortir ta carte bleue. Peut-être on va vous dire, madame, monsieur, refaites votre code parce que ça ne passe pas. Ah bon? Pourquoi ça ne passe pas? Et encore quelques semaines, c'est le même geste encore. encore et encore. Mais Jésus dira, qu'est-ce qu'il va dire Jésus ? Je suis le vrai pain venu du Père. Celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le vrai pain qui descend du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Gloire au Seigneur. Voilà ce que les hommes ont besoin. Au lieu de s'agiter de l'inflation, au lieu de se faire des soucis du pouvoir d'achat. Oui, j'ai fait le plein, ça m'a fait 90 euros, ce n'est pas grave. Mais je sais que j'ai goûté à ce pain de vie-là. Je sais qu'il vit en moi. Je sais que quelle que soit la situation, même si je venais à manquer du pain sur cette terre, j'ai l'essentiel parce que j'ai Jésus, j'ai l'assurance, je suis en sécurité. Il est à côté de moi. Et toi ? J'aimerais simplement m'arrêter. Quand Jésus va dire « Le pain que je donnerai pour que le monde vive, c'est mon propre corps. » Il parlait là de son sacrifice à la croix. Il a livré sa vie pour nous frayer le chemin. À la croix, il a accepté de se dépouiller. Il a accepté de se livrer pour montrer que par lui, plusieurs peuvent y passer pour atteindre Dieu le Père. Puisqu'il dira, je suis le vrai pain du ciel qui est descendu. Il est descendu pour que nous puissions retrouver. Veux-tu cet après-midi, Naomi pressait ses belles filles en disant retournez chez vous. C'était sans oublier que Ruth avait cet empressement de dire « Non, je ne retournerai pas chez moi, je retournerai chez toi. Pourquoi ? Parce que chez toi, je sais que c'est la maison de l'abondance, c'est la maison du paix. » Et par la suite, quand nous lisons les Écritures, nous nous rendons compte qu'elle est sortie un jour, elle est allée glaner et le Seigneur lui a fait grâce. Elle est retournée, les mains remplies, parce qu'elle avait la faveur de Dieu. Elle avait la grâce de Dieu. Le regard de Dieu était sur lui. Malgré la famine, elle était dans l'abondance parce qu'elle avait fait le bon choix. Quel choix fais-tu cet après-midi ? Quel choix font les gens cet après-midi ? Alors qu'ils sont angoissés, alors qu'ils ils sont dans la crainte, dans la peur, vont-ils retourner semaine après semaine pour faire leurs courses dans ce magasin-là? Et peut-être ils vont se dire, voilà, je vais changer de magasin. Peut-être parce que là, les prix sont moins bas et on passe le temps à sillonner les magasins. On connaît même presque tous les magasins de Gap. Pourtant, Jésus va dire, je suis le vrai pain descendu du ciel. Celui qui me mange vivra éternellement. Vivra éternellement. Veux-tu? On va fermer nos yeux. Quelle est ta crainte cet après-midi? Quel est ton souci? Y a-t-il cet empressement dans ton cœur de retourner à celui qui t'a créé? Naomi empressait ses belles-filles de retourner. Plusieurs fois, non, il y a ce mot retourner. Retournez chez vous. Et pourtant, ce que Dieu attend des hommes, c'est qu'ils retournent à lui. C'est qu'ils reviennent à lui. Ils reviennent. Naomi, lorsqu'elle va apprendre que Dieu avait fait grâce en envoyant du pain, à Bethléem, elle n'est pas restée chez elle. Elle s'est levée et elle est retournée. Veux-tu cet après-midi réaliser que ce que Dieu attend de toi, c'est que tu prennes conscience de ta situation et que tu retournes vers celui qui t'a tant aimé, vers celui qui a livré sa vie à la croix. Nous voulons donner l'occasion cet après-midi à quelqu'un de dire, Seigneur, au regard de ce qui a été dit, je sais que la vraie sécurité est en toi. Je sais que la vraie assurance est en toi. La vraie paix est en toi. Alors que le monde est agité, tu assures les hommes, ceux qui vont te faire confiance, que même dans l'agitation, ils peuvent être dans la paix, dans la tranquillité, dans le calme, parce qu'ils s'attendent à toi, parce qu'ils te font confiance. Et à cause de cela même, Seigneur, je veux te faire confiance. Y a-t-il quelqu'un cet après-midi, alors que les yeux sont fermés, nul besoin de savoir, oubliez même votre voisin, votre voisine, faites confiance à Dieu. Y a-t-il quelqu'un qui veut faire confiance à Dieu pour sa vie, en se disant, Seigneur, je veux laisser de côté toute agitation, mais tu es la vraie paix. Si vous voulez de ce Jésus qui est le vrai pain de vie, levez simplement la main, nous allons prier pour vous et avec vous. Y a-t-il quelqu'un? Oui, y a-t-il quelqu'un d'autre? Amen. Je veux faire un autre appel. Y a-t-il quelqu'un qui s'attend à la grâce de Dieu? Qui se dit, Seigneur, je sais que si tu procures le pain qui donne la vie, je sais que tu es capable de me venir en aide. Et voici, je dépose à tes pieds mon fardeau, ma difficulté, mon souci. Et j'ai besoin de toi. Y a-t-il quelqu'un qui se réclame de la grâce de Dieu? Oui. Alléluia. Nous voulons prier pour vous. Parce que nous croyons de tout notre cœur que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas venu pour nous laisser livrer à nous-mêmes. Mais il est venu pour secourir. Alors nous allons prier. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Parce que oui, tu ne laisses pas les hommes livrer à eux-mêmes. C'est vrai, il y a ce besoin physique. Mais tu montres, Seigneur, au travers de ta parole qu'il y a un besoin plus grand. Seigneur, mon Dieu, c'est notre besoin de toi. Alors, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que ton esprit fasse croître, Seigneur, cette semence qui a été déposée dans les cœurs. Oui, éternel, que dans les jours, les semaines à venir, il y ait, oh, Seigneur, mon Dieu, oh, une plus grande connaissance, Seigneur, alors que ces personnes cherchent, c'est vrai, entrer en communion, en intimité avec toi. Bénis-les abondamment. Oui, pose ta main, Seigneur. Quel que soit le besoin, nous nous attendons à toi. Seigneur, mon Dieu, fais-nous voir ta gloire. Donne-nous de voir ta puissance, Seigneur. Oui, que tu procures la paix et la joie, afin que, oui, au travers de ce qu'ils vont expérimenter, ils puissent, Seigneur, te révéler à ceux qui ne te connaissent pas. En ayant fait la paix avec toi, Seigneur. Oh oui, que ta paix inonde leur cœur. Merci pour toute cette journée passée sous ton regard. Merci parce que tu as su parler à nos cœurs. Oh Seigneur, nous voulons garder précieusement ce que nous avons reçu. Oh Seigneur, nous voulons te confier toute cette semaine. Seigneur, nous ne savons pas ce qu'il en viendra, mais nous voulons te faire confiance. Parce que tu es le maître des circonstances et des temps. Alors conduis-nous. Marche devant nous, Seigneur, et glorifie ton nom, à toi toute la gloire. Amen.